Commençons par un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons être attentifs à tes enseignements, toujours plus. Nous avons parlé déjà les deux dernières semaines de l'importance du pardon. Donne-nous de pouvoir comprendre plus profondément qu'est-ce qui est en jeu dans nos vies. Cette liberté spirituelle, cette liberté d'aimer, qui est en jeu dans le pardon. Merci de nous guider pendant ce temps. Merci de nous permettre d'avoir accès aux profondeurs de nos âmes, de laisser ton esprit d'amour, de vérité et de paix pénétrer, guérir et guider nos cœurs vers toi. Toi, le seul bon maître, le seul Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Être disciple de Jésus, importance du pardon. Le recevoir, le donner. C'est le flot de la vie dans nos cœurs, le pardon. Apprendre à le recevoir et à le donner est au fondement d'une vie que je pourrais dire équilibrée. Les chrétiens parlent du pardon depuis des siècles, depuis 20 siècles. Et les psychologues ont commencé à découvrir. Maintenant, il y a des psychologues qui se concentrent simplement sur la question du pardon, prenant conscience combien, quand il y a eu des blessures dans notre passé qu'on n'a pas pu pardonner, qu'on n'a pas compris comment pardonner, on se retrouve bloqué, on se trouve prisonnier de l'autre, et il y a une partie de notre vie qui est enfermée, qui est coincée. Et ça crée de l'amertume, ça peut aller jusqu'à la dépression, on en parlait la semaine dernière. Donc l'importance du pardon, le recevoir, le donner, c'est une question de vie. Alors certains croient le pardon, c'est pour les autres qu'on le fait d'abord, qu'on pardonne. Eh bien paradoxalement, pardonner, c'est vous qui bénéficierez les premiers du pardon. C'est pas les autres, c'est vous qui bénéficierez. Et on va en reparler de ça. D'abord, dans l'évangile de Matthieu, il y a deux semaines, nous avons parlé, dans le chapitre 18, versets 21 à 35, de ce qu'on appelle la parabole du serviteur sans pitié. C'est l'histoire d'un serviteur qui doit une somme immense à son maître. Et Jésus raconte cette histoire et dit, le maître décide de lui pardonner. Le roi décide de lui pardonner sa grosse dette. Et ce serviteur pardonné ensuite va retourner s'en aller. Et il trouve quelqu'un qui lui doit une petite dette, 10 000 fois plus petite que ce que lui devait. Et cette autre personne lui dit, pardonne-moi, remets-moi ma dette. Pardonner et remettre la dette sont deux choses qui sont traduites souvent de la même façon dans le Nouveau Testament. Et ce serviteur qui vient d'être pardonné dit « Je ne te pardonnerai pas ». Il le prend à la gorge et l'emmène jusqu'en prison pour lui faire payer la dette. Une prison où on fait du mal, où on torture pour forcer la personne à contacter toutes les personnes qu'il connaisse pour pouvoir obtenir le montant. Et finalement, à la fin, Jésus dit « Si la personne fait cela, elle-même va être condamnée. Le pardon va être retiré. Et cette personne, ensuite, va se retrouver souffrir de ce qu'elle a voulu faire de mal à l'autre. Et Jésus dit, il en sera de même pour nous si nous ne pardonnons pas. Donc Jésus ne peut pas être plus clair en nous disant, le pardon n'est pas une option. Le pardon, on a à prendre conscience d'abord qu'on l'a reçu pour pouvoir le donner. Alors, c'était la prédication d'il y a deux semaines. La prédication de la semaine dernière était sur la parabole du fils retrouvé. Pour pouvoir donner le pardon, il faut bien comprendre que Dieu nous pardonne. Si nous venons à lui, que nous nous repentons de nos péchés et que nous nous tournons vers lui. Un point important qui a l'air tout simple, mais qui est aussi difficile pour la plupart d'entre nous que c'était le cas au temps de Jésus, c'est de comprendre que Dieu est un Père aimant. Dieu est un Père aimant. Et au temps de Jésus, les gens se disaient, ou bien on va faire des gros efforts, on va essayer de faire tout ce qu'il faut, et puis Dieu va nous laisser, on est tranquille, c'est bon, on est juste, et on va pouvoir mépriser les autres qui ne sont pas justes parce que nous, on y arrive, ou bien on n'y est pas arrivé, on a fait des fautes, et là, il n'y a aucune chance pour nous, on ne sera jamais pardonné. Donc, le danger, c'est que ça séparait la structure sociale entre ceux qui étaient finalement pécheurs, prostitués, ceux qui se disaient « on n'y arrivera jamais ». Toutes ces demandes de Dieu, on ne peut pas y arriver. Et les autres qui disaient « nous, on y arrive et on est mieux que vous ». Finalement, avec un orgueil. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte l'histoire d'un père qui va pardonner l'impardonnable. Qui va pardonner un... Dans la culture de l'époque, c'était impardonnable. Un fils qui allait prendre son héritage, qui allait mettre en danger la situation financière de son père et qui allait dilapider l'argent que son père lui avait donné. Ce qu'on appelle la parabole du fils prodigue ou la parabole du fils retrouvé. Et dans cette histoire, nous voyons l'image du père. Comment ce père va accueillir en retour son fils quand il revient. Il ne va pas l'écraser, il ne va pas l'humilier. Quand il voit que son fils se repent et qu'il se tourne vers son papa, il lui dit « C'est bon, je t'accueille, viens, réjouis-toi, je veux me réjouir avec toi. » Le fils, il se disait « Je vais me faire accueillir comme un esclave chez mon père pour qu'il me punisse du mal que j'ai fait. » Et il se fait accueillir comme un fils. Il se fait honorer. Et ça, c'est l'incroyable amour de Dieu, le Père. Nous avons du mal à le croire. Nous avons du mal à le croire parce que nos parents sont rarement comme ça. Et nous imaginons souvent Dieu tel que notre père, notre mère. Et on se dit, non, c'est pas possible. Cette parabole n'est pas que pour le temps de Jésus, c'est pour notre temps aujourd'hui, de prendre conscience que Dieu est un père qui a un amour incroyable, un amour miséricordieux, qui veut nous rétablir dans la relation, qui veut nous rétablir dans la communion avec lui, dans la paix. Et donc la semaine dernière, je proposais une prière pour demander à Dieu de nous révéler son cœur de père. Si vous avez du mal à comprendre que Dieu est un père aimant, c'est le démarrage. Comprendre que Dieu aime, que Dieu n'est pas un Dieu qui attend le moment pour faire tomber le couperet et pour couper les têtes, pour nous punir, pour nous torturer. Le but de Dieu, c'est de nous amener dans la communion avec lui, que nous apprenions à aimer, à être aimé et à aimer notre prochain. C'est le but de Dieu. Ensuite, nous avons vu, à la fin de la semaine dernière, les étapes. Comment, en quelques étapes, la blessure peut amener jusqu'à l'amertume. Quand on est blessé par quelqu'un, finalement, c'est un phénomène de rejet. Quand on est blessé par quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On se sent rejeté. Si on est blessé par un ami qui n'a pas tenu une promesse, on se sent rejeté dans la relation avec cet ami. Si on est blessé avec une épouse, un époux qui nous fait du mal, on se sent rejeté. Si on est blessé avec un parent, un enfant, ça peut être physique, une blessure physique. Ça peut être une blessure émotionnelle, spirituelle. Ça peut être à tous les niveaux, ces blessures. Mais ces blessures, si on les laisse aller en profondeur sans finalement essayer de trouver une solution avec Dieu, les solutions humaines ne sont pas bonnes. Les solutions humaines, il y a plusieurs types. Le premier type, c'est de dire finalement, c'est pas grave. Hein? Quand on ne sait pas trop gérer, des fois, on se dit, bon, ben, c'est pas grave. Mais dans notre tête, ça continue à traîner, ces histoires-là. Et quand ça traîne, on va réfléchir comment, par exemple, on va punir la personne. Des fois, on a des rêves, on souhaite du mal à la personne. On se dit, elle m'a fait du mal, elle mérite de recevoir du mal. Tant que nous sommes sur cette longueur d'onde, sur cette dynamique, c'est ce qu'on appelle la justice rétributive. Œil pour œil, dent pour dent. Et on se dit, c'est biblique. Quand Dieu a enseigné le œil pour œil, dent pour dent, c'était un temps où il y avait ce qu'on appelle la vendetta. En Italie, on voit ça. Qu'est-ce qui se passe? T'as touché à mon frère, moi je vais tuer ton père, ta sœur, ta mère et tous tes frères. Je vais te faire plus mal que tu m'as fait mal. Avec les enfants, c'est souvent comme ça. Il y en a un qui donne un petit coup. L'autre, pour se venger, il donne un coup plus grand. Où est-ce qu'on va s'arrêter? Où est-ce qu'on va s'arrêter? La justice rétributive, Dieu a d'abord limité. Il a dit, œil pour œil, dent pour dent, n'allez jamais plus loin que l'offense qu'on vous a faite. Ce n'était qu'une première étape dans l'enseignement de Dieu. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de rendre à quelqu'un ce qu'il mérite. Ce n'est pas cette justice rétributive. Le but de Dieu, c'est la communion, la réconciliation entre nous et Dieu, la réconciliation entre hommes et femmes, dans la mesure du possible. Et cette réconciliation, finalement, c'est le cœur de la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants à la plage, des fois, qui jouent, et puis il y en a un, par exemple, il fait un pâté de sable. J'imagine qu'à La Réunion, on fait des pâtés de sable, ça me semble. Il y en a un qui fait un beau château de sable, par exemple, puis un autre enfant qui va shooter dedans pour une raison qu'on n'expliquera pas, qu'on ne sait pas. Il shoote dedans, il détruit le château de sable de son copain ou de sa copine. Le premier enfant se met en colère et lui dit « Je te pardonnerai jamais ! J'aurais te tué !» Des fois, on entend des choses comme ça. Hein. Et 10 minutes après, on les voit commencer à rejouer ensemble et se pardonner. Qu'est-ce qui se passe ? En miniature, c'est la vie qui est en jeu. D'abord, justice rétributive où on m'a fait du mal, je veux faire du mal en retour. C'est la logique du péché. Et c'est une logique qui vous emprisonne, qui vous rend esclave. On va en reparler aujourd'hui. Et les enfants apprennent pour les petites offenses qu'à un moment donné, il faut pardonner. À un moment donné, il faut laisser filer. Les parents, s'ils sont là, ils vont essayer de dire « faut que tu pardonnes maintenant » parce que sinon, il n'y aura plus d'amitié, il n'y aura plus de communion. Et ce que l'on croit des fois, c'est qu'on peut pardonner à certains et on peut ne pas pardonner à d'autres. On va dire « ok, on va être dans un petit groupe, les gens sympas, et puis les autres, on ne va pas leur pardonner ». Mais quand vous ne pardonnez pas à des personnes, votre vie devient étroite. Votre capacité à aimer devient étroite. Votre capacité à être en paix et joyeux devient resserrée. À chaque fois que vous reverrez des personnes qui sont un peu comme la personne à qui vous n'avez pas pardonné, les sentiments vont commencer à remonter. Vous allez essayer d'éviter les places où vous ressentez des choses qui ne vont pas. Vous allez essayer d'éviter les gens. La colère est là. Et cette colère, la question c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Colère d'avoir été blessé, mais si on la laisse travailler en nous, cette colère, c'est le désir de se venger. Le désir de faire mal en retour. Qui peut nous détruire ? Qui peut détruire nos vies ? Aussi intelligent soit-on, nul n'est prisonnier de ce poison, parce que c'est un poison pour l'âme. Maintenant, j'aimerais vous inviter à tourner la page. Pour que vous puissiez tourner la page sur votre colère et vraiment vivre une vie renouvelée dans laquelle vous n'êtes pas prisonnier. Parce que quand vous êtes prisonnier de la blessure, la personne qui a gagné, c'est celle qui vous a blessé. Elle est encore plus forte que vous parce que votre vie est devenue plus petite. Votre vie est devenue blessée et vous n'avez pas laissé la guérison venir. La guérison était possible. Si vous croyez que la guérison, c'est seulement si l'autre se repent parfaitement et répare, c'est impossible. On ne peut jamais effacer complètement le péché. C'est pour ça que Dieu a dû amener Jésus-Christ, a envoyé son Fils, pour nous montrer que le péché, ça ne se répare pas, ça se pardonne. Le péché ne se répare pas, il se pardonne. On peut se repentir, et je vais vous parler de la repentance, faire ce qu'on peut pour atténuer le péché que nous avons pu commettre. Mais vous n'effacerez jamais un péché. Si je prends un vase et que je le jette sur du carrelage et qu'il se brise et que je veux le réparer, je vais prendre de la glue super fine, je vais reprendre tous les petits morceaux, je les colle. Est-ce que le vase va être le même qu'avant ?
Non.
Jamais. Il ne sera jamais comme avant. Le péché détruit. Et nous avons détruit. Le problème avec le péché, c'est qu'on est toujours plus sensible au péché des autres qu'à notre péché. On est toujours plus sensible au mal qu'on nous a fait qu'au mal que nous avons fait. Et la première étape spirituelle, c'est de demander pardon pour nos péchés. Tant que nous n'avons pas pris conscience qu'on a pu faire du mal à d'autres, on est des dangers ambulants. On est des tanks ambulants. On est des tueurs en série, si on peut dire. On va continuer à faire du mal. On va dire, oh, vous savez, moi j'ai pas fait tant de mal que ça, j'ai dû juste dire un petit mot, puis de toute façon il le méritait ou elle le méritait. Ou, c'est pas grave. L'image que je reprends souvent c'est quand on fait du tir à l'arc, lâcher une flèche, on le sent à peine. C'est juste un petit frottement sur le doigt. Pop, on sent l'arc qui vibre un peu et la flèche part. Mais si cette flèche pénètre dans une personne, elle peut tuer. Qu'est-ce que moi j'ai senti ? Presque rien. Qu'est-ce que l'autre a ressenti ? Ça peut être immense. Une parole peut tuer. En tant qu'enfant, il y a des paroles qui ont pu devenir des prison pour nous. Des paroles que des parents ont pu dire pour nous, des éducateurs des fois. Regardez dans votre histoire, même scolaire, comment un mauvais maître a pu vous emprisonner, a pu vous décourager, a pu vous faire du mal. Comment un bon maître ou une bonne maîtresse a pu vous encourager à un moment clé de votre vie? Ça peut être des parents, ça peut être des grands frères, des oncles, des tantes, des sœurs. La parole est puissante. Nos actions sont puissantes et on a une influence sur ce monde. La question c'est, est-ce qu'à un moment donné on va reconnaître qu'il y a des moments où on a fait du mal? Tant qu'on n'a pas reconnu cette étape, on ne sert à rien parce que tout le monde a fait du mal. Et la seule technique humaine qu'on a, c'est de dire, oui, j'ai fait du mal, mais lui a fait pire. Le voleur va dire, oui, d'accord, j'ai volé l'argent de cette petite vieille et je lui ai donné un coup de pied. Mais mon copain, ou celui que je connais, lui, il a tué des vieilles. Un autre va dire, oui, j'ai tué, mais Hitler, lui, il a tué des peuples. Et il y en a qui se retrouvent en prison et qui disent, ouais, d'accord, j'ai fait du mal, mais un tel a fait pire que moi. Donc, moi, je suis pardonné parce qu'il y en a d'autres qui ont fait pire que moi. Mais quand est-ce que le monde, quand est-ce que nous allons arrêter de jouer à ces jeux stupides? Quand est-ce que nous allons arrêter à jouer à des jeux où on va dire, moi, ce que j'ai fait, c'est pas grave, mais les autres, c'est grave? Quand est-ce que on va commencer à dire, ok, j'ai pu faire du mal et je ne veux plus en faire? Je veux être délivré du péché. Jésus, quand il devait venir sur terre, un ange est venu parler à Joseph, le père adoptif de Jésus, et lui a dit, tu l'appelleras Jésus, parce que c'est lui qui délivrera son peuple du péché. Le péché, en grec, en hébreu, ça veut dire manquer la cible. Ça veut dire que on est appelé à un but. Notre but, c'est d'aimer. Notre but, c'est d'honorer les autres, de les encourager, d'aimer Dieu. Aimer notre prochain, aimer Dieu, c'est le cœur de la foi chrétienne. Mais, on n'y arrive pas, on manque la cible. Et on a à y retourner. On a à reconnaître que nous avons péché. La question, c'est pas de dire, il y a des bons chrétiens, des super chrétiens qui n'ont jamais péché. Les chrétiens, c'est ceux qui disent, oui, chacun de nous, on a péché, mais il y a un chemin de repentance pour ne plus pécher, pour être délivré du péché. Jamais vous trouverez dans le Nouveau Testament un moment où Jésus vous dit, bon, tu as péché, d'accord, je te pardonne, mais essaye de ne plus pécher trop. Essaye de pécher seulement, tu péchais une fois par semaine, essaye de pécher une fois par mois. Quand Jésus pardonne, il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés dans l'évangile de Jean, on le voit au chapitre 5. Jésus pardonne un paralytique et le paralytique guéri qui revient à Jésus, Jésus lui dit, maintenant, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive pire encore, parce que le péché a des conséquences sur nous. Les psychologues avec l'inconscient, tout ça, ont pris conscience comment, quand on fait du mal inconsciemment, ça retombe sur nous. Et le non-pardon aussi, ça retombe sur nous. Il y a même ce qu'on appelle les problèmes psychosomatiques. Ça peut avoir un impact sur notre corps. Et c'est pour ça que nous avons ici les étapes pour demander le pardon à Dieu ou à une personne. Quand nous avons commis une faute, quand nous avons reconnaissons que nous avons fait du mal à quelqu'un. La première étape, c'est d'abord prier et demander au Saint-Esprit d'amener à notre esprit les péchés que nous avons commis envers Dieu et envers notre prochain. Et je vous invite, à la fin de ce culte, vous aurez un temps, il y aura deux prières. Il y aura une prière pour demander s'il y a des péchés qu'on a fait contre Dieu ou contre notre prochain, qu'ils soient ramenés à notre esprit. Il y a une deuxième prière qui est la deuxième étape. Demandez s'il y a des personnes qui nous ont blessés et à qui on n'a pas pardonné encore. Et quand je vais parler de cette deuxième étape, je vais vous rappeler un point essentiel. Pardonner et se réconcilier sont deux choses différentes. Pardonner et se réconcilier sont deux choses différentes. Pardonner et se réconcilier, c'est pas pareil. Pardonner, c'est renoncer à punir l'autre nous-mêmes. Mais Dieu nous donne la sagesse. Il nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on respecte et on aime la personne que nous sommes et qu'on aime notre prochain, imaginez une mère qui a des enfants. Et qui sait que telle femme ou tel homme va blesser elle ou ses enfants. elle a à pardonner. Est-ce que ça veut dire que cette personne va revenir avec ses enfants auprès de la personne qui peut faire du mal, à ses enfants ou à elle? Non, ça serait manquer d'amour pour elle et pour ses enfants. Et la réconciliation, pour qu'elle puisse prendre forme, en général devra être passée par un moment de reconnaissance de l'offense, de reconnaissance qu'il y a eu finalement quelque chose qui nous a blessés, et qu'on peut se réconcilier, qu'on peut finalement trouver ce chemin. Mais c'est une démarche qui se jouera des deux côtés. Maintenant, j'aimerais accentuer l'aspect de votre côté, de demande de pardon et de donner le pardon. Pour sortir de la justice rétributive, de la justice où c'est on va payer pour nos péchés, on va faire payer les autres pour leurs péchés. Si vous êtes prisonnier de ça, vous voulez emprisonner les autres, vous serez vous-même prisonnier de cette justice. De la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré, dit Jésus. De la façon dont vous traitez les autres, on vous traitera. L'enfer, c'est nous qui le fabriquons, par notre attitude, soit de se détourner du péché et se tourner vers Dieu, soit de se concentrer sur le péché, soit le nôtre, soit celui des autres, et sur la punition. Donc, ces étapes pour demander le pardon à Dieu ou à une personne, comme vous les voyez à l'écran, ou sur vos feuilles, en haut à gauche, d'abord, je vous invite à prier et demander au Saint-Esprit d'amener à l'esprit les péchés que nous avons commis envers Dieu ou envers notre prochain. Priez, et quand vous priez, n'attendez pas une voix du ciel qui est comme un tonnerre. Je vous invite à prendre un crayon, si vous êtes chez vous ici, vous pourrez prier pour un premier entraînement si vous le souhaitez, mais prenez un crayon si vous êtes chez vous et faites cette démarche chez vous. Et notez. Notez les points si vous n'avez pas eu l'occasion de faire cette démarche ou si vous sentez qu'il y a des choses qui restent sur votre esprit qui ne sont pas justes. Et notez tous les points où vous sentez que vous avez pu blesser quelqu'un d'autre. Ou manquer d'honneur envers Dieu, envers sa création. La deuxième étape, c'est reconnaître l'offense et notre responsabilité. Une fois qu'on a noté, c'est dans la prière dire « Dieu, je reconnais que j'ai fait du mal, que j'ai pu blesser. Ou toi, ou mon prochain. Et c'est moi le responsable. J'arrête de jouer. J'arrête de dire « Oui, j'ai fait du mal, mais… » Oui, mais… » Combien de fois vous essayez de dire à quelqu'un que la personne a fait quelque chose de pas juste et que la personne vous répond comment ? Oui. Et juste après le oui, mais. Ce mais, c'est comme si vous effaciez le oui. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. C'est pas ma faute, c'est ma mère qui m'a manqué de respect quand j'étais jeune. C'est ma faute, c'est parce que telle autre personne m'a cassé les pieds cette journée, c'est normal que ma colère sorte. On dit ça aux autres, mais quand c'est nous qui recevons le mal, là, c'est plus la même règle. Notre justice, tout d'un coup, elle change d'aspect. Et tant que notre justice envers les autres ne sera pas la même justice que nous voulons pour nous, on sera des esclaves. Des esclaves du péché. Des esclaves, finalement, du non-pardon. Donc, reconnaître l'offense est notre responsabilité. Reconnaître, nous avons péché. Nous avons fait quelque chose qui n'est pas juste. Et la troisième étape, c'est pas fini, c'est pas parce que Dieu n'est pas une machine à pardon. Dieu n'est pas une machine, vous savez, vous connaissez les distributeurs à boissons, quand on met, si le coca c'est 1 euro, en général maintenant c'est peut-être 1,50 euro ou 2 euros, surtout les endroits où les gens savent qu'ils ont soif, disons que c'est un 2 euros. Je mets mes 2 euros, j'appuie sur le bon bouton, et qu'est-ce qui se passe ? Le coca tombe, si c'est le coca que j'ai demandé, je le prends. Alors, il y a des blagues où on dit des gens qui se disent « Oh, il y a des jeux, on gagne à tous les coups, tu mets la pièce et il y a toujours quelque chose qui tombe. » Mais finalement, ça c'est une démarche mécanique. On fait ce qu'il faut et on obtient la boisson. Quand il nous est dit de confesser nos péchés, il nous est aussi dit de nous détourner du péché. Vous pouvez aller à Dieu et dire « Dieu, je te demande pardon. J'ai fait ceci, cela, j'ai encore insulté mon collègue au travail. J'ai encore battu mon enfant, je te demande pardon. Merci Dieu, je sais que tu pardonnes par la foi, mais il y a un mais. Jean le Baptiste, il avait des gens qui faisaient comme ça et qui venaient en son temps, c'était au temps de Jésus, et qui venaient pour être baptisés. Qu'est-ce qu'il leur disait ? Engeance de vipère. Est-ce que vous croyez que vous allez fuir la colère à venir ? Portez d'abord des fruits de repentance. La repentance, c'est changer d'état d'esprit, se détourner, reconnaître qu'on a vraiment fait quelque chose de mal et que on va s'en détourner. Je vous lis le texte que vous avez sur votre... Vous avez cette flèche, vous voyez ? Se repentir, c'est on allait dans cette direction, on arrête de pécher et on change de direction. Si j'étais un voleur, comment est-ce que je me repens ? Expliquez-moi. J'arrête de voler. Ça y est, j'ai fini, je me suis repenti ? D'accord. Si j'ai volé quelque chose, dans la mesure du possible, il faut le rendre. Alors, il y a des fois, c'est pas parce qu'on demande pardon à quelqu'un que la justice de l'homme sera pas là. Et ça, on n'est pas là pour la remplacer. Mais pour Dieu, Dieu veut que, dans la mesure du possible, on restitue. Pour montrer notre bonne volonté. Et j'avais une sœur, Timnit, qui était érythréenne, quand on était en Suisse, et elle nous disait que quand les gens se convertissaient, chez elle, c'était du sérieux. Quand ils se convertissaient, elle, quand elle s'était convertie, elle avait été voir les personnes avec qui elle avait fait du mal, c'est parce que c'était une petite communauté aussi. Et elle disait, je te demande pardon pour ça. Et quand elle pouvait, quand elle avait pris quelque chose, elle essayait de le rendre dans la mesure du possible. Si vous rendez, ça ne va pas effacer le péché. Ne croyez pas que vous pouvez effacer le péché. Des fois, vous essayez d'effacer. Quand vous essayez d'effacer, c'est comme si vous essayez de mettre un petit pansement sur une plaie profonde. Quand vous avez manquer de respect à quelqu'un et que vous dites « je te demande pardon », ça n'est pas effacé. Si la personne vous donne le pardon, il va y avoir une guérison qui peut prendre forme. Mais c'est plus profond. Ce n'est pas simplement de surface. Des fois, on a une idée de « ok, j'ai demandé pardon, j'ai reçu le pardon, tout est effacé ». Non, il y a une profondeur là. Il y a une profondeur. Et avec la grâce de Dieu, la relation peut être rétablie. Mais ça ne veut pas dire que la blessure a complètement disparu. Elle peut être guérie. Si j'ai eu une grande entaille dans le bras et que j'ai pu être bien guéri, que ça a été désinfecté, qu'elle a pu guérir la plaie, qu'est-ce que je vais avoir après ? Est-ce que ça fera mal quand j'appuie dessus ?
Non.
Ça fera plus mal. Est-ce que je verrai encore quelque chose ? Je verrai encore la cicatrice. Et le pardon, c'est apprendre à trouver la démarche pour que ça cicatrise, pour que ça arrête de nous faire du mal. Mais ça ne va pas disparaître complètement. On verra encore des choses. On aura des choses que nous verrons encore. Et c'est le cas aussi, quand on se repent, on n'efface pas nos péchés. Mais on s'en détourne et on fait ce que nous pouvons dans notre démarche pour effacer. Et comme vous disiez très bien, c'est Clément, la justice des hommes ne sera pas effacée. Un homme qui a tué la justice des hommes va encore l'emmener en prison. Mais il pourra demander pardon et devant Dieu, être pardonné. Après les juges, quand il y a des personnes qui se repentent, en général, il y a une clémence. Hein. Vous observez que les gens qui ont une attitude vraiment de repentance, souvent on leur raccourcit leur terme. Hein. Des fois on leur raccourcit parce qu'on veut chasser les gens, faire sortir les gens des prisons. Ça, c'est pas toujours juste. Mais des fois, il y a vraiment une attitude juste, une attitude de repentance. Et même les prisons des hommes reconnaissent cette dimension. Mais avec Dieu, c'est différent. Ne cherchez pas à égaliser la justice des hommes et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la justice éternelle. Et si nous nous repentons et croyons à la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Et que si nous l'accueillons comme notre Seigneur, accueillir Jésus comme notre Seigneur, ça veut dire comme notre chef. Ça veut dire que quand ça ne va pas, qu'est-ce que je fais si Jésus est mon chef ? Est-ce que je vais aller chercher quelqu'un d'autre ? Est-ce que je vais aller... par exemple, si j'ai pas de travail, faire des trucs qui sont pas à l'honneur de Dieu pour essayer d'obtenir le travail.
Non.
Est-ce que c'est si je n'ai pas d'enfants et que je veux à tout prix des enfants, faire des trucs tordus pour avoir des enfants. Si, par exemple, je veux une épouse et j'y arrive pas, est-ce que je vais payer quelqu'un très cher pour tricher, pour arriver à amener quelqu'un à moi ?
Ou s'inscrire sur Facebook
pour essayer de... Alors, je dirais sur Facebook, On peut aussi, je dirais, il n'y a pas de mal à chercher à avoir une épouse. Hein. La question, c'est comment vous faites ça. Hein. Et la question aussi, c'est dans quelle mesure vous êtes honnête. Est-ce que vous dites, ah oui, je veux avoir des amis, tout ça. Et puis après, bon, ben, vous essayez d'aller plus loin. Il y a toute cette démarche. Hein. Là, on ne va pas aller jusque-là. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. On va laisser Facebook pour ici, pour l'instant. Mais de fait, hein, il y a une question d'honnêteté dans la démarche qui est importante. Et Matthieu disait, donc produisez du fruit digne de la repentance, comme on le lit ici. Donc quand on a fait cette démarche de repentance, on demande pardon à Dieu et parfois aux hommes. Quand vous avez blessé un homme ou une femme, vous avez à discerner est-ce que c'est bon de demander pardon. Et parfois il est bon, parfois c'est devant Dieu qu'il faut demander pardon. Ça dépend parce que c'est à vous de discerner. Quand vous le pouvez, et quand vous le sentez, demandez pardon à la personne. Allez dire, écoute, il faut que vous ayez fait les premières étapes, hein, les trois premières étapes. De dire, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu, j'ai reconnu mon enfance et je m'en suis détourné. J'ai fait ce que je pouvais. Et dans cette attitude, demandez pardon. De dire, je te demande pardon. Est-ce que la personne est obligée de vous pardonner si vous demandez pardon?
Non.
N'oubliez jamais que dans le mot pardon, il y a le mot don. Le pardon est toujours un don. Ce n'est pas un échange. On n'achète pas le pardon. On ne l'obtient pas avec des machines à sous en disant les prières qu'il faut. C'est par grâce. Et on reçoit le pardon comme un cadeau. Si la personne me pardonne, quand j'ai péché, c'est un cadeau. Et je peux simplement recevoir avec gratitude, foi et humilité. Et dire merci. Dire merci, c'est jamais je mérite le pardon. C'est jamais tu dois me pardonner. C'est si tu me pardonnes, je peux juste te dire merci. Merci parce que le but, c'est de rétablir les relations. Le but, c'est de vivre en communauté. Le but, c'est de vivre une vie qui a de la valeur. Et c'est seulement dans une communauté qu'on peut la vivre. Quand on est tout seul, il y a peu de joie. C'est ensemble que nous avons de la joie. Avec un mari, une épouse, des enfants, des amis, des frères et sœurs. Une communauté. Et cette cinquième étape, recevoir le pardon, est très important. Avec Dieu, quand on demande pardon à Dieu, on a par la foi à croire que Dieu nous a pardonné. On n'est pas censé passer toute notre vie à dire peut-être que j'ai mal dit pardon à Dieu. Des fois, il y a des gens qui se disent peut-être que j'ai pas demandé exactement ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut. Et c'est là que la foi est très importante. Vous avez à croire que Dieu vous a donné son pardon. Par la foi. Et Jésus le promet, par exemple, 1er épître de Jean, chapitre 3, verset 9, pour ceux qui veulent, qui ont un combat par rapport à ça, dans cette 1er épître de Jean, Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et nous les pardonnera. Si nous nous détournons de nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonnera. Ensuite, nous avons à passer à la question de pardonner nous-mêmes. Alors, je vous lis, c'est le texte en haut à droite, dans l'évangile de Marc, versets 22 à 26. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quelle justice vous choisissez? La justice rétributive? La justice de « je veux punir les autres et donc ben, je vais être puni de la même façon » ou la justice de dire « il y a du pardon possible, il y a possibilité de réconciliation même si l'offense est grave, cette possibilité est ouverte pour celui qui se détournera du péché. » Est-ce que vous êtes prisonnier du passé? Ne pas pardonner, c'est dire « je suis prisonnier du passé ». Cette faute du passé, faut que la personne s'en repente parfaitement. Le problème, c'est que s'en repentir parfaitement, ça n'existe pas. effacer le péché n'est pas possible. Quand le vase a été cassé, il est cassé. On peut essayer de réparer, mais même réparer, ce vase ne sera jamais l'équivalent de ce qu'il était.
Oui, mais parfois c'est plus fort, parce que le colle est plus fort que le céramique. Et ça donne le caractère à la vase.
Ah, alors, on peut dire que quand le vase est recollé, quand nous avons été pardonnés par Dieu, on commence à prendre conscience de la grâce de Dieu, du cadeau de Dieu. On commence à être des personnes reconnaissantes. Et ça forme un caractère. Ça forme un caractère de dire, il y a un chemin pour moi, il y a un chemin pour les autres. En même temps que vous êtes pardonné, vous prenez conscience que même quelqu'un qui a fait beaucoup de mal peut être délivré, peut changer. C'est possible. C'est possible pour moi, c'est donc possible pour les autres. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, versets 14 et 15, le deuxième texte que vous avez ici, j'aimerais vous lire. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Sanctification, c'est recevoir l'Esprit Saint pour nous délivrer de nos péchés, pour arrêter de faire des choses qui sont mal. Verset 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Observez bien dans ce verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le don de Dieu, l'amour de Dieu. Nul ne se prive. Qui est-ce qui prive de la grâce de Dieu?
Nous-mêmes.
C'est nous-mêmes. Qui c'est qui se prive de la grâce de Dieu? C'est nous. Quand nous refusons de nous tourner vers la grâce et que nous tournons vers la punition, l'amertume, la rancœur. Et ça produit l'amertume dans nos cœurs et ça va nous infecter. Et plusieurs en seront infectés, comme ce verset nous le montre. Ces racines d'amertume, quand elles poussent dans nos cœurs, elles auront une conséquence. Un fils qui, par exemple, a été humilié par ses parents et qui dit... J'ai appris maintenant à dire ce que je pense. Et on ne pourra plus me faire taire comme mes parents me faisaient taire. Qu'est-ce qui se passe quand il sera père?
Il va faire comme son père.
Il va faire comme son père. Et il va humilier ses enfants et il risque de propager une deuxième génération. Le péché se propage par motif. Il y a le péché qui se reproduit identiquement. L'enfant qui a été abusé par ses parents, a beaucoup plus de chances, ça c'est des statistiques, hein, c'est même les psychologues le reconnaissent, beaucoup plus de chances d'abuser physiquement, sexuellement, ses propres enfants que la personne qui n'a pas été abusée. Et vous avez la propagation sur une génération. Vous avez les propagations sur deux générations. Sur deux générations, c'est j'ai été battu, moi je ne battrai jamais mes enfants. Je leur donnerai tout ce qu'ils veulent. Et vous avez des enfants qui deviennent quoi? Des petits dieux. Maman, je veux ci, on lui donne. Papa, je veux ça, on lui donne tout. Oui, mon chéri, on te donne tout. Ça fait quoi quand ces gamins, ils grandissent? Laurence, qui est à la maternelle, tu dois en connaître des enfants comme ça. Hein? Laurence est enseignante à la maternelle.
Hein?
Les enfants rois. Est-ce que les enfants rois, ils vont être gentils avec leurs petits copains?
Non.
Avec personne, d'ailleurs.
Avec personne? Et ça, c'est la propagation sur deux générations. Une, on fait quelque chose de pas juste. Corriger les enfants est une bonne chose, avec mesure et par amour, et non pas par violence. Ne pas les corriger, c'est pas bon.
C'est les détruire.
C'est les détruire. Et les corriger trop, c'est détruire aussi. Donc, tant qu'on est prisonnier du non-pardon, de l'amertume, on va reproduire le péché. Il y en a quelques-uns parmi vous qui vont peut-être se dire « Moi, je suis plus intelligent. Moi, je suis plus fort que ça. » Je sais précisément le mal qu'on m'a fait, et moi, je ne ferai jamais comme ça, mais par mes forces, je m'en sortirai. Attendez d'avoir des enfants. Attendez de voir ce que ça va produire. Malheureusement, le péché, on ne s'en délivre pas par nos forces, on en s'en délivre par la grâce de Dieu. Parce que le péché reçu se transmet. Et on a vraiment à dire, je veux donner un halte là à ce péché, je veux l'arrêter. Et c'est la première raison d'arrêter et de pardonner, c'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour vous-même que le pardon est important. Vous voyez maintenant, c'est en bas à gauche sur vos feuilles, raison pour pardonner. La première raison, c'est on obéit au commandement de Dieu. Dieu nous dit pardonnez. Comme vous avez été pardonné, pardonnez. La deuxième raison, c'est pour être libéré du péché commis contre nous. Le péché commis contre nous dans notre passé peut être une prison. Et pour s'en libérer, se libérer des émotions négatives qui font du mal d'abord à nous. Les émotions négatives ne font pas du mal aux autres d'abord. Elles font du mal à nous-mêmes. Si j'ai mon voisin qui, exemple type, met la sono trop forte, progressivement il y a de l'amertume qui commence à grandir, et puis de la colère. Vous essayez de dire à votre voisin ne fait pas ce que vous demandez. Vous pouvez même en venir aux mains des fois, puis après il y a une amertume, une rancœur, une tension. Vous refusez de pardonner, vous souhaitez le mal à l'autre, vous essayez, dites, ah, si vous voyez la voiture du voisin qui a reçu un petit choc, vous dites bien fait. Ou si vous entendez l'enfant qui va dire du mal de son père, ou bien la tante qui va, s'il y a une colère dans la maison d'à côté. Vous connaissez ces petits plaisirs? Quand on commence à se dire, ah. Vous savez à quoi ça correspond? Au refus de pardonner. C'est, en français, on avait un mot pour ça, on appelait ça le fiel. Le fiel, c'est quelque chose qui a un goût doux et amer à la fois. Il y a une petite douceur, on a l'impression que ça fait du bien. Et il y a une amertume. Et cette amertume, elle nous détruit intérieurement. Et on est prisonnier à l'intérieur. On a tout ce fiel qui détruit qui en premier ? Nous-mêmes. Et c'est la paix, la joie, la douceur qui va être détruite dans notre vie d'abord. Laurence, c'est une question facile ?
Oui.
Vas-y.
Admettons, reprenons l'exemple du voisin. Le voisin met la sono à fond.
D'accord.
Ça fait du mal parce que tu es parti le voir, par exemple, il ne t'écoute pas. Tu lui pardonnes. Il recommence.
Ouais.
Et il recommence. Et tu dois lui pardonner à chaque fois et il s'arrête.
Combien de fois on doit pardonner, Laurence ? Quand est-ce que tu dois t'arrêter ?
Mais, tu t'arrêtes jamais, d'accord ? Mais en attendant, il continue.
D'accord. Alors tu fais ce que tu fais. Tu fais ce que tu peux pour lui dire. Tu essayes de lui dire. Si la personne ne veut pas entendre, le pardon, c'est du bon sens. Le pardon, c'est du bon sens. Si tu te mets en colère à l'intérieur quand il met sa sono fort, ça fait du mal à qui ? Est-ce que ça le fait souffrir, lui, que tu sois en colère ? Et dans ta maison, à qui ça fait du mal ?
À toi, mais ton seuil de tolérance au bruit est de plus en plus bas.
Seuil de tolérance, c'est la justice rétributive, ça. Seuil de tolérance, c'est si on dépasse les bornes, alors là, non. Là, je pardonne plus. Ça, c'est la technique de Pierre qui venait voir Jésus. Dans sa culture, c'était 3 fois qu'on pardonnait. Il dit, Jésus, est-ce que 7 fois, c'est suffisant ? Il se disait peut-être que ça va être bon. Non, Jésus lui dit 70 fois, 7 fois. La question, c'est, le pardon, c'est pas un nombre limité de fois. C'est pour vous que ça fait du bien. Et de dire, je veux me détourner de ce bruit, quel est le but ? S'il y a ce bruit qui revient, vous ne pouvez pas faire taire la personne, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez 2 options. La première, vous restez là, la deuxième, vous partez. D'accord ? Si vous ne pouvez pas partir, comment vous allez vivre au mieux ? Essayez de trouver une façon de le vivre au mieux. Mais, ne pas pardonner ne va pas régler la question. C'est de l'amertume à l'intérieur. On va être prisonnier de cette amertume. Si vous pouvez mettre la sono plus fort ou mettre de la musique pour compenser quand le bruit est fort ou partir en week-end, vous avez à être créatif. La réconciliation n'est possible que quand les deux côtés reconnaissent. Là, c'est un cas où si, j'imagine que le voisin n'a pas voulu baisser la sono. Théorique, hein, je sais bien, ça n'arrive jamais ces cas-là, mais au cas où. Eh bien, vous aurez à trouver une façon de le vivre. Mais cette façon de le vivre, un point clé, ça va être pardonner. Tant qu'il y a de l'amertume dans votre cœur, c'est du bon sens. L'amertume, vous ne l'aurez pas seulement quand il y a la sono. Si vous n'avez plus d'amertume, ça va être difficile sur le moment, puis après, c'est passé. Si l'amertume reste, c'est continuel. Ce fiel, ce poison dans le cœur est là. Et vous détruit, vous. L'autre, ça lui fait aucun mal. Ça lui fait aucun mal. Vous allez pouvoir lui souhaiter du mal. Vous allez pouvoir vous réjouir du mal pour l'autre. Mais ça, ce n'est pas le chemin de l'évangile, ça.
On peut prier aussi que Dieu intervienne.
Vous pouvez en prier pour que Dieu intervienne. Vous pouvez remettre à Dieu l'autre personne. Est-ce que Dieu punit les péchés à un moment donné? Mais lui, il n'a pas péché.
Il va y avoir le conciliateur, là, pour le bailleur.
Alors, si on peut, des fois, si vous pouvez avoir un conciliateur, essayez les méthodes humaines. Et après, à un moment donné, vous remettez à Dieu. Il y a même un verset dans l'Épître aux Romains. Ceux qui aiment bien penser que le mal, quand même, à un moment sera jugé. Lisez l'Épître aux Romains, chapitre 12, la fin. Et Paul dit, pardonnez à ceux qui vous font du mal et bénissez-le. C'est comme si vous amassez des charbons ardents sur leur tête. Est-ce que ça serait agréable d'avoir des charbons ardents sur les têtes?
Non.
Est-ce que c'est agréable de les avoir sur les pieds et de marcher dessus?
Non,
il y en a qui font ça de temps en temps.
Ouais,
ils essayent, ils ont l'impression.
Généralement, ils boivent l'eau pour tremper les pieds.
Voilà. Mais si on l'a sur la tête, les charbons ardents, là, ça ne va pas marcher. Hein.
Pour moi, c'est un entraînement pour
l'enfer.
Oui, quelque part.
Si on prie,
ouais.
Dieu renverse les situations à notre avantage. C'en est juste.
Oh, Dieu agit et rétablit parfois. Est-ce que Jésus, quand il a été humilié par les gens à Jérusalem, Dieu a dit, bon, écoutez, arrêtez de faire du mal à Jésus, soyez gentils, on va avoir un conciliateur, le Sanhédrin de ce côté, Jésus de l'autre, et puis ça va bien se passer.
Non.
Malheureusement, Eva, j'aimerais bien te dire que ça va toujours être comme ça.
C'est du vécu, quoi.
Voilà. Parfois, espérez. Parfois, Dieu pourra le faire. Mais une étape importante dans votre cœur, ça sera pardonné. Alors, on prend le deuxième gris ici sur le texte. La première personne qui bénéficie de notre pardon, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce que quand on n'a pas pardonné, non seulement c'est pas facile quand l'autre personne, si c'est un péché qui revient, ça passe. Mais ça nous emprisonne à l'intérieur. On y pense bien plus souvent. Et honnêtement, vous donnez du pouvoir à l'autre. Vous lui donnez un pouvoir dont vous ne vous rendez pas compte. Le pouvoir d'habiter en vous. Le pouvoir d'habiter dans votre mémoire de manière importante. Quel cadeau vous lui faites à l'autre? Quel cadeau vous faites au péché de l'autre? C'est dérouler un tapis rouge pour son péché. Lui dire, vas-y, continue à me faire du mal à l'intérieur. Continue à me faire tourner en bourrique. Continue à me construire dans l'amertume. Et cette amertume, elle reste pas entre vous, avec la personne. Vous allez vous engueulez, vous allez vous chahuter avec les autres personnes, il y aura tous ces sentiments mauvais qui vont revenir. En pardonnant, qu'est-ce qui va se passer? Première étape, première chose, on va être libéré des sentiments négatifs liés au non-pardon. Être libéré des sentiments négatifs. À ton avis, Laurence, si un voisin met la sono trop forte, est-ce que la personne qui est amère, parce que l'autre personne lui pourrit la vie, lui le fait souffrir de temps en temps, assez régulièrement, le week-end ou quoi que ce soit, est-ce que la personne n'y pensera que le week-end ou elle y pensera à d'autres moments, à ces choses douloureuses? À d'autres moments aussi. C'est l'expérience du non-pardon. Le non-pardon se répand. Ça fait tache d'huile. Et ça va se répandre à d'autres relations. Cette autre personne, c'est comme un tel. Et vous allez revivre les offenses. Vous allez les revivre et sans vous en rendre compte, vous allez commencer à prendre une attitude qui va inviter ce péché à revenir. Et sans comprendre pourquoi, ça va se reproduire. Vous allez vous dire, mais est-ce que je suis maudit? Est-ce que je suis maudit? Non, vous n'êtes pas maudit. Il y a une libération que Dieu veut faire dans vos âmes. D'abord, nous libérer des sentiments négatifs liés au non-pardon. Premier point. Deuxième point, être renouvelé dans la relation d'amour avec notre Dieu miséricordieux, avec notre miséricordieux Père Céleste. En pardonnant, on sort de cette justice rétributive. On dit, ok, j'étais là, je voulais que l'autre personne soit punie parce que moi j'ai reçu une flèche. Bien sûr, moi je ne pense pas à toutes les flèches que j'ai envoyées qui ont blessé les autres. Ok, je veux être guéri de cette blessure, mais je pardonne la personne qui a fait ça. Je sors de cette démarche et je me mets sous la grâce de Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas la loi. Quand dans le Nouveau Testament, Paul dit « Vous n'êtes plus sous la loi », ce n'est pas une façon de dire « Vous pouvez faire ce que vous voulez hein. ». C'est une façon de dire « Vous respectez les commandements de Dieu et vous respecterez aussi même les commandements dans les dans les pays, dans la mesure où ils ne sont pas en opposition à l'Évangile. Mais vous ne le ferez plus parce que vous allez être payé pour ça. Vous le faites parce que vous avez reçu la grâce et vous voulez transmettre la grâce. C'est une autre dynamique, être sous la grâce. Le troisième point que nous avons, c'est nous pourrons mieux accepter les autres sans ressentir le besoin de les changer, devenant mieux à même de les connaître, de les aimer. Dans les couples, on peut changer un petit peu l'autre. Il y a des choses qu'on peut changer. Mais il y a beaucoup de choses, il va falloir qu'on accepte de vivre avec. Si quelqu'un, si un des deux frappe l'autre, ça ne vaut pas pardonner. Enfin, il faut pardonner, pardon, mais il faut dire, là, il faut que tu changes. Excusez-moi pour le vocabulaire. Mais pour que la réconciliation soit complète, il faudrait qu'il y ait un changement. Vous n'êtes pas invité par l'Évangile à dire, tapez-moi et je souris. Vous êtes invité, si ton frère a péché contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? J'ai mal entendu. Non, jamais. Rendre la violence, ça ne marche pas. Ça ne porte pas de fruit. C'est une erreur. Oui, alors, essayez s'il y a quelque chose. Des fois, il est important de reprendre conscience que le péché, il y en a dans les deux sens. De dire, ok, ouais, essayez de trouver une réconciliation. Et là, quand on suit cette direction, voilà, on va nous avoir à dire, ok, je pardonne dans mon cœur à la personne. Est-ce que ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait jamais eu de blessure ou d'offense? Non, il y a toujours eu la blessure. Donc, je pardonne d'abord, et ensuite, je vais venir voir la personne, lui dire, est-ce qu'on peut parler par rapport à ce qui s'est passé? Et d'être prêt à faire le tri, mais le pardon, c'est un prérequis pour faire ça. Et l'autre personne vous dira peut-être, oui, je t'ai dit ça parce que tu m'as humilié. Alors vous pouvez dire, je te demande pardon pour t'avoir humilié, et je voulais aussi te dire que quand tu m'as donné un coup, ça m'a fait mal aussi.
Après, il recommence après.
Attention. Est-ce que toi tu regrettes de m'avoir fait du mal? Si la personne vous dit non, moi quand on me fait du mal, je fais du mal, c'est normal. Tu dis non. Dans ce cas-là, on ne peut pas se réconcilier. Moi, je ne veux pas me faire battre. Je veux pas être. Je veux garder une distance. Si tu ne veux pas arrêter de me battre, je suis obligé de garder une distance avec toi. Mais si tu changes, là, on peut travailler à une vraie réconciliation. Clément.
Le pardon et l'ignorance habitent les deux extrémités opposées de la terre.
Oui.
Au pôle nord, il y a le pardon, ouais. Et l'ignorance de l'autre, et au pôle sud.
Oui.
On prend un exemple. Hein. Depuis étant petit, c'est-à-dire le mien, j'arrive pas à pardonner tout ce qu'on m'a fait
ouais.
Endurer mes parents.
Ouais.
Même en connaissant la parole de Dieu.
Ouais.
Même en étant Saint-Esprit.
Voilà. Hein. D'accord.
Moi, j'ai vécu ça dans une assemblée. Je ne dirai pas parce que j'aime pas les étiquettes. J'aime pas les appellations.
Il faut mieux garder comme ça. Faut voilà. D'accord.
Et donc, j'ai pardonné. Je suis revenu sur mon pardon, mais je suis toujours confronté à l'ignorance.
L'ignorance, qu'est-ce que vous entendez?
L'ignorance de mes parents.
D'accord.
Vis-à-vis de moi.
Voilà, alors là, l'ignorance, c'est un péché. Quand les parents n'ont pas... et on a à pardonner à nos parents quand ils n'ont pas fait ce que eux auraient dû. Mais pour pardonner, je vais vous montrer les étapes pour pardonner. Hein. On va y venir. Et si vous voulez, on va en discuter plus après. Hein. Ça sera avec plaisir. Alors, ignorance. Alors, on va passer à la dernière partie, le dernier morceau en bas à droite, une citation de Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est un monsieur qui était psychologue pendant le temps de la Deuxième Guerre mondiale et qui avait été en camp de concentration. Il était juif et il a vu les proches, il a vu sa femme mourir dans le camp de concentration, dans un autre camp. Il a été au seuil de la mort. Et il y a eu, alors qu'il changeait de camp, de concentration, il y a eu la libération. Les Américains sont arrivés en Allemagne. Et il a pu être libéré. Et après, il a beaucoup réfléchi à ce qu'il avait vécu. Et il avait vécu des offenses que je ne souhaite à personne. Un degré d'offense et d'humiliation inimaginable. Mais il a pris conscience de plusieurs choses. Et là, la phrase que je vous lis... Ce n'est pas la phrase de un gentil pasteur qui veut vous donner une bonne direction pieuse. Je vous dis la phrase d'un homme qui a survécu à des humiliations innommables, à des mauvais traitements et qui a vécu dans sa famille la destruction. Et est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a enseigné ensuite? Et il a écrit des livres sur ce sujet. Il disait, nous ne pouvons pas dicter aux autres personnes comment nous traiter, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons à la façon dont nous sommes traités. On ne peut pas dicter aux autres, que ce soit des parents, que ce soit des enfants, que ce soit des amis, des communautés, comment eux vont nous traiter. Mais nous pouvons choisir comment nous allons réagir à leur traitement. Est-ce que nous allons réagir avec l'amertume et la haine? Ou est-ce que nous allons pardonner et choisir le chemin d'être libéré, de dire « je ne veux plus être prisonnier de ces trucs-là, je veux être vraiment libre ». Et ça, c'est les étapes qui sont présentées en dessous, là. Sur votre feuille, vous les avez à l'écran, alors. Étape pour pardonner à ceux qui nous ont blessés. La première partie, prier et demander au Saint-Esprit d'amener à notre esprit les personnes à qui nous avons à pardonner et les choses à leur pardonner. Vous pouvez le faire à la fin de ce culte, dans le silence ou de votre côté, chacun, je vais vous inviter à un temps de prière. On aura un temps avec de la musique. Vous savez, mieux que moi, là où vous vous sentez invité à avancer, à être libéré. Et c'est vraiment une question de libération qui est en jeu. Libération de vous pour votre capacité à aimer Dieu et à aimer votre prochain. Et cette première phase est importante. Deuxième étape, vous le ferez plus tôt si vous êtes chez vous. Je vous encourage à garder cette feuille et à faire cette démarche ou seul ou avec un ou une amie. Et de faire, en même temps que vous faites cette prière, écrire une liste de tout ce qui vous vient à l'esprit, sans se presser. Ne rationalisez pas. Quand vous priez, vous demandez Dieu, aide-moi à voir s'il y a des endroits où dans ma vie, on m'a blessé et j'ai à pardonner. Et vous notez la liste. Vous ne réfléchissez pas, vous dites pas, oui, on m'a fait mal, mais, oui, mais, oh, c'est vieux. Une des erreurs, c'est, on croit que le temps efface les blessures. Est-ce que vous avez, si vous avez pris un bon coup de machette en profondeur, et que je dis, j'attends, je nettoie pas, je mets pas de l'alcool dessus, j'attends, ça va se nettoyer avec le temps?
Non.
Ça va se nettoyer, ça?
Ça va gangréner.
Et nous avons trop souvent laissé la gangrène se répandre dans nos vies. Et le chemin que Jésus nous invite à prendre, c'est un chemin de vie, de guérison. De dire, ok Seigneur, montre-moi tous les endroits où il y a des blessures que les gens ont fait, où tu veux que je pardonne, afin que je reçoive ta guérison, que je sois guéri. Écrire cette liste sans se presser. Troisième étape, prier et dénoncer devant Dieu le mal qui nous a été fait. Être en colère face au mal est une réaction saine. Quand on vous a fait mal, c'est normal que vous ne soyez pas content. N'essayez pas d'être plus pieux que Dieu ne vous le demande. Dieu ne vous demande pas de faire comme si vous n'aviez pas été blessé. Il vous demande de reconnaître que vous avez été blessé et de dire « Dieu, ça m'a fait mal ». Et en même temps que vous reconnaissez que ça vous a fait mal, vous allez choisir de vous en détourner. Mais si vous dites « Non, ça ne m'a pas fait mal, ça va bien », c'est ce qu'on appelle le pardon de surface. C'est le coup du sparadrap sur une plaie profonde. Ça ne marche pas. Le pardon est une démarche profonde avec Dieu. Ce n'est pas une démarche rapide. « Ah d'accord, je viens à l'église, on me dit pardonne, j'ai pardonné, on a pris une prière d'une minute, c'est bon, tout est réglé ». C'est un chemin avec Dieu. Et dans ce chemin, Dieu va enlever progressivement tout le pus, tout le poison qui était dans la blessure. Et nous rétablir, en tant qu'enfants de Dieu, nous rétablir dans tout ce qui avait été emprisonné, dans ces non-pardons, dans toutes ces prisons du passé. Et on a à dénoncer devant Dieu le mal qui nous a été fait, reconnaître la réalité et la profondeur de là ou des blessures. Que ce soit au niveau émotionnel, physique, relationnel, reconnaître la blessure, reconnaître oui, ça m'a fait mal. Quand on veut du mal à l'autre, on est du côté de la destruction. quand on reconnaît notre blessure devant Dieu, on est du côté de la guérison déjà. Et la guérison, Dieu va l'apporter progressivement, par sa grâce. Comme si l'eau va couler sur une blessure qui faisait mal. Pensez à l'Esprit de Dieu comme une eau pure qui va laver la blessure, qui va progressivement vous renouveler, que ce soit par rapport à des parents qui vous ont fait mal, par rapport à des amis, des personnes, des communautés. Dieu veut vous laver, vous rendre libre d'aimer. Alors, l'étape numéro 4, une fois qu'on a dénoncé le mal, reconnu le sérieux du mal qu'on a reçu, quatrième étape, dire que nous renonçons à nous venger et que nous pardonnons à la personne devant Dieu. Renoncer à nous venger, c'est dire « je renonce au poison, je renonce au fiel, cette chose qui avait un goût doux et amer à la fois. Je renonce à tous ces petits plaisirs liés au mal que je pouvais propager chez l'autre, comme si ça me donnait un plaisir sur le long terme, mais en fait c'est un plaisir qui me détruit. C'est comme une drogue. Le non-pardon est comme une drogue. Une drogue, par exemple, l'alcool, les médecins ont étudié, quand vous commencez à être alcoolique, quand vous prenez de l'alcool, ça libère de la dopamine. La dopamine, c'est ce qui donne du plaisir dans le cerveau. Mais en même temps que l'alcool libère la dopamine, le plaisir, elle rend incapable le cerveau de recevoir du plaisir par une autre méthode. C'est comme si quand vous mettez l'alcool, l'alcool détruit toutes les autres façons de recevoir du plaisir. En étant ensemble, en rigolant ensemble. Et progressivement, le plaisir ne viendra que de l'alcool. Et vous vivez une vie qui devient toujours plus désagréable avec l'alcoolisme. Et vous vous dites, mais j'ai moins de plaisir à cette vie. Oui, l'alcool détruit votre capacité à être heureux. C'est la drogue. Et il n'y a pas que l'alcool. Le jeu d'argent peut faire ça. La pornographie peut faire ça. Ça peut être les drogues dures. Ça peut être le zamal. Ça peut être tout type de drogue. Et progressivement, votre façon d'expérimenter le plaisir ne sera que de cette façon. Eh bien, j'aimerais vous dire, le non-pardon, c'est une drogue. Et vous aurez un petit plaisir que vous aimerez. Hein? Et si vous laissez ce petit plaisir aller jusqu'au bout, vous prendrez le chemin que les sadiques prennent. Vous savez ce que c'est un sadique? C'est celui qui prend plaisir au mal chez l'autre. Ça, c'est le chemin du non-pardon. Que vous le vouliez ou non, c'est ce chemin que vous prenez. Vous mettez un pied dedans quand vous refusez de pardonner. Et quand vous dites, « Ok, Dieu, je reconnais, il y a eu beaucoup de mal qui m'a été fait. Voilà, je le mets par écrit, je le cite, je le nomme et je te demande de venir. Et moi, je ne veux plus être celui qui retient ce mal dans ma vie. Je ne veux plus être celui qui reste prisonnier de ce mal du passé. Mon père, ma mère, mon ami, telle personne, telle communauté, je leur pardonne devant Dieu. Je refuse de me venger. Je refuse de leur vouloir du mal, de méditer le mal. Et je le remets à toi. » La cinquième étape, qui est importante, demander pardon si nous avons péché en réaction à ce que nous avons subi. En général, le péché engendre le péché. Et quand nous refusons de pardonner, c'est quasiment assuré que vous allez reproduire le péché. Vous allez reproduire des attitudes de dureté. Et quand on est endurci, quand on devient dur, on n'est plus capable d'être souple dans les relations. Dans les relations humaines, on a besoin de souplesse pour s'adapter aux différents caractères. On n'est plus capable. Notre monde devient étroit. Et on a à demander pardon là où on a pu reproduire le péché qu'on a reçu. On a été humilié. Est-ce qu'on a humilié d'autres? Reconnaître qu'on veut finalement être libéré du péché et du mal. Le problème, ce n'est pas tant l'autre personne. Le problème, c'est notre cœur qui doit être renouvelé par Dieu pour aimer et vivre cette vie paisible à laquelle Dieu nous appelle, à laquelle Dieu veut que nous répondions. Et j'aimerais simplement finir par vous montrer un exemple de prière, si vous ne savez pas comment prier, après avoir fait en même temps que vous faites ces étapes, pour, au milieu de l'étape numéro 4, sur renoncer à venger et pardonner à la personne, vous pouvez prier la prière suivante. Je vous la lis. Seigneur, je pardonne, nom de la personne, des personnes, pour telle offense. pour ses offenses. Par la foi, je prends autorité au nom de Jésus, et par la puissance de l'Esprit Saint, je reprends les domaines de ma vie que j'avais laissés au péché à cause de mon attitude envers la personne. Et je rends ces domaines à mon Seigneur Jésus-Christ. Je les remets à Dieu, afin que le processus de guérison continue. Ce n'est pas une technique, hein. Attention. Ne croyez pas, si vous avez la naïveté de croire, ah, ok, j'ai eu des blessures pendant 15 ans et avec une belle prière, tout est effacé. Je suis désolé, vous n'êtes pas une machine à sous, vous n'êtes pas un robot, vous êtes des êtres humains, avec un corps, une âme, un esprit, que Dieu a créé avec beaucoup de grâce. Est-ce que Dieu est capable de vous reconstruire? Oui. Et le vase que Dieu va reconstruire fera briller d'une lumière surprenante. Un vase qui a été reconstruit, des fois, on voit quelque chose de surprenant. La lumière, quand elle passe à travers un vase qui a été brisé, sur les petits angles, quand c'est reconstruit, il va y avoir ce qu'on appelle la diffraction. Et il y aura comme un arc-en-ciel. Et des fois, un vase de verre reconstruit, c'est comme s'il y a des lumières superbes qui passeront à travers. Ce vase pourra communiquer des choses superbes s'il est reconstruit par Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à ce chemin, cette aventure avec Dieu, d'être réconcilié avec Dieu, de laisser le venin du péché, du passé, dans le passé, et de vivre cette vie nouvelle à laquelle Jésus-Christ vous invite, pour vraiment découvrir que Dieu vous aime, que Dieu vous appelle à aimer maintenant, et ne plus être prisonnier du passé. C'est la question à laquelle je vous invite. Vous avez deux chemins, comme vous avez remarqué sur votre feuille. Soit vous pouvez prier par rapport à ce chemin de gauche, par rapport à demander pardon à Dieu, soit le chemin de droite, sur le pardon et avec la prière du bas. Nous allons prendre quelques minutes. Je vais demander à Pierre de faire un moment d'instrumental. Et de votre côté, je vous invite à faire cette prière, à si vous avez s'il n'y a qu'une prière que vous faites, je vous inviterai à dire: Seigneur, est-ce qu'il y a des personnes à qui j'ai à pardonner? Est-ce qu'il y a des personnes où je retiens encore, et vous le reconnaissez si vous voulez du mal à la personne? Comment on reconnaît si on n'a pas pardonné? Si on a du plaisir à voir l'autre souffrir? Si on veut que la personne soit punie? Si on repense très souvent à une offense. Il y a l'eau de l'Esprit de Dieu, il y a la purification de Dieu que Dieu veut amener. Je vous invite à prendre un temps devant le Seigneur, à prier, le reconnaître et à laisser la lumière de Dieu vous accompagner. Peut-être faire une première fois cette prière, mais je vais être honnête avec toi, avec chacun de vous, cette prière n'est pas juste un moment, ce n'est pas une technique d'une minute. C'est un chemin. Et c'est un chemin auquel je vous invite, chacun de vous, pour que les années volées par la sauterelle dans le passé, Dieu les retrouve. Pour que les lieux où vous avez été emprisonnés, Dieu vous libère pour vous rendre capable d'aimer en plénitude, dans sa grâce et pour sa gloire. Prions ensemble. Je dis une prière après, on va avoir un temps juste avec l'instrumental et vous êtes invités à prier dans votre cœur, notre Seigneur. Père Céleste, toi qui nous enseignes le pardon, pas parce que tu veux nous punir, pas parce que c'est une technique magique et si on pardonne, tu nous donnes un petit chocolat ou une... Tu veux simplement partager ton cœur, tu veux qu'on vive une vie tournée vers l'amour, vers la grâce. Tu veux que nous soyons heureux et nous ne pouvons pas être heureux si le péché est prisonnier dans nos cœurs, si le pardon n'est pas donné. Apprends-nous par ta grâce à donner, Seigneur. Oh oui, nous te remettons ce temps. Je te remets mes frères et sœurs. Nous nous remettons à toi, que nous puissions chacun prier dans notre cœur. Laissez ton esprit nous guider en ce temps. Merci, Maître, maintenant de nous guider chacun à notre place. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu nous connais. S'il y a dans nos cœurs des choses qui sont du sérieux, des blessures profondes, donne-nous, Seigneur, de pouvoir te les apporter, de cheminer, d'accueillir toujours plus ton esprit, de grandir dans le chemin du pardon, de la guérison de nos âmes, pour que nous puissions aimer, que nous puissions être délivrés de la drogue du non-pardon, la drogue de l'amertume, du fiel, de cette hargne intérieure, de ce désir de vengeance, de cette méditation du mal. Apprends-nous à vouloir le bien, pour nous et pour les autres. Apprends-nous à nous tourner vers la lumière. Tu dis à travers ton apôtre Paul que tout ce qui est bon, agréable et parfait soit l'objet de nos pensées. Apprends-nous à pardonner, Seigneur, à te demander pardon, afin que, en nous, ce soit la lumière qui règne et qu'il n'y ait pas de ténèbres. Par ta grâce, par ton amour, en ton nom nous prions, Seigneur Jésus-Christ. Amen.